Tambour, trompette, guitare et flonflon, la France accueille le sommet de la francophonie. Il fallait bien une fête, un festival gai et lyrique, intelligent et ludique, plein de mots, d'images, d'accents, de slogans plus ambitieux les uns que les autres. Réinventer le monde, réparer le monde, réenchanter le monde.
Pascal Paradou.
Pendant 5 jours, le Théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris va être l'épicentre du festival francophone qui est le volet culturel du sommet de la francophonie qui va réunir entre Paris et Villers-Cotterêts les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF. Et pendant 5 jours, RFI sera présent ici pour vous raconter tout ce qui se passe, tout ce que Valérie Senghor a imaginé pour cet événement. Bonjour Valérie Senghor.
Bonjour Pascal Paradou.
Commissaire général de ce festival, après avoir mené de main de maître, je dirais de maîtresse, le chantier de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, quelle était l'idée de ce festival ? Parce qu'on voit bien la demande politique, mais l'Élysée n'est pas un organisateur de festival.
C'est d'ailleurs le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est à l'initiative de cette manifestation qui est effectivement inédite, hein, puisque liée à ce contexte lui-même exceptionnel de la tenue en France du sommet de la francophonie, qui n'avait pas été accueilli ici depuis 33 ans, dans un contexte politique, géopolitique, culturel que l'on connaît, qui est difficile avec beaucoup de défis qui se posent à la francophonie. Donc en effet, pour que la francophonie ne reste pas un sujet réservé aux chefs d'État et de gouvernement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici en France a souhaité organiser cette manifestation pour que tout à chacun s'empare de cette notion, une notion parfois mal comprise, mal connue, vue de France. Donc l'enjeu, c'est en effet de partager l'idée de francophonie, même de la vivre, d'où le fait que nous avons choisi de l'exprimer par le prisme de la culture et des arts.
Donc c'est un lieu très central, la Gaîté Lyrique, on est vraiment au cœur de Paris, un lieu très innovant aussi, parce que c'est un vieux théâtre du 19e siècle où l'on jouait les opérettes d'Offenbach, mais c'est devenu depuis 10 ans un lieu dédié aux arts numériques et aux musiques électro. C'est pour donner un coup de jeune à la francophonie.
Oui, ah oui, tout à fait. C'est un choix vraiment assumé que d'installer le cœur de ce festival ici même à la Gaîté Lyrique. De même qu'il rayonne dans d'autres lieux, le 104 accueillera également le village de la francophonie qui est le petit cousin du festival.
Ça, c'est dans le nord de Paris.
C'est un autre haut lieu de la scène culturelle parisienne.
Donc vous avez imaginé, à la fois au 104, mais surtout ici à la Gaîté Lyrique, une programmation tous azimuts avec des artistes du monde francophone, des mondes francophones.
Oui.
Qu'est-ce que vous choisissez, le singulier ou le pluriel ?
Le pluriel, des mondes, des cultures, des expressions francophones. C'est effectivement au cœur du festival que d'avoir construit une programmation qui permette d'entendre, de mettre en résonance toutes les formes d'expression du français, à la fois dans sa diversité géographique, mais également dans sa diversité de formes. Nous avons eu à cœur avec toute l'équipe qui m'entoure, évidemment c'est un projet collectif, une équipe et beaucoup de partenaires ici en France, d'inviter largement, nous avons eu cette chance de pouvoir inviter plusieurs centaines d'intervenants, d'artistes, d'auteurs du monde entier pour exprimer toute cette variété, toute cette nuance de la francophonie vivante, incarnée, inspirante, agissante.
Alors tout cela, bien évidemment, quelles que soient les disciplines, et on va en parler, il y a notamment une expo conçue par Dominique Moulon, commissaire de cette exposition « Langue, langage et imaginaire ». Bonjour Dominique Moulon.
Bonjour.
Cette exposition témoigne de l'intérêt des artistes pour le langage ou pour la langue. Est-ce que cela vous a surpris quand on vous a passé commande, ou c'était une évidence pour vous ?
Alors, c'est quelque chose que je savais, cette importance des langues et du langage dans l'histoire de l'art. Ça m'a surpris que Valérie vienne me solliciter pour cette exposition, puisque vous évoquiez tout à l'heure les arts numériques. Moi, je viens plutôt de ce domaine-là, mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'art et essentiellement contemporain. Juste pour rebondir sur les langues et le langage, il faut dire que à partir du moment où on donne des titres aux œuvres, on va voir apparaître une relative importance du langage, donc je dirais quasiment avec la signature de l'artiste et on pourra dire la Renaissance, et puis au XXe siècle, avec l'art conceptuel, les mots vont prendre une grande force, et avec la poésie visuelle qui est finalement entre texte et art visuel. Et il y a beaucoup de ces œuvres qui s'articulent autour du langage.
Mais alors, vous n'avez pas été chercher des artistes lettristes ou dadaïstes qui, au XXe siècle, se sont énormément intéressés au langage et aux mots. Ce sont des artistes très contemporains et qui viennent d'à peu près tous les continents. Il y a une Québécoise, des Algériens, des Chiliens, etc., etc.
En effet, il y a des artistes du monde entier. C'était aussi, ça faisait partie de l'idée. Et on s'est focalisé sur des pratiques résolument contemporaines. C'est-à-dire que les œuvres qui sont au sous-sol, il y en a qui sont de cette année. Il y en a qui sont de l'année dernière. Ça remonte peut-être à une quinzaine d'années. Avec, en effet, ce fil conducteur qui est cette relation aux langues, mais aussi au langage. Quantité de formes de langage, il y a du morse, il y a du braille, il y a des langues, il y a la langue française bien entendu, mais à chaque fois avec une part soit sonore rarement, mais surtout essentiellement visuelle.
Alors hier soir, en avant-première de ce festival, il y avait un défilé de mode. Ce soir, la scène de la Gaîté Lyrique accueille des humoristes, parmi lesquels celle que l'on surnomme en Belgique la reine de l'éloquence, Laetitia Mampaka. Bonjour.
Bonjour.
Peut-on rire de la francophonie ?
Ah oui, oui, oui. Ça fait quelques années que je le fais.
C'est vrai ?
Ah oui.
Et vous vous attirez pas les foudres de Valérie ou de quelconque chef d'État ou grand dirigeant francophone ?
On verra ce soir, mais jusqu'à présent, ça se passe bien. Ils ont beaucoup d'humour.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'il y a un humour francophone ?
Il y a des humours francophones, justement. J'ai eu l'opportunité de jouer au Québec, comme en France, comme en Belgique. Et il y a des variantes. J'aime dire que la langue française se module selon la culture aussi. Elle est assaisonnée, épicée selon bien les perceptions que l'on a au lieu où on va. Je dois parfois adapter certaines blagues, des expressions que je connais au Canada, que je peux utiliser sur scène, mais que je devrais expliquer si je devais le faire ici. Donc il y a un humour francophone qui se décline énormément.
En tout cas, vous pourriez incarner cet humour francophone puisque vous travaillez en français, vous êtes sur scène en français, vous êtes belge d'origine congolaise, donc ça fait quand même une belle sauce.
C'est une très bonne sauce. C'est délicieux.
Alors, on vérifiera tout ça, mais la francophonie, c'est aussi la musique avec des concerts ici, dont celui de votre compatriote Pierre Demar.
Ce soir, je m'émerveille. Je vois nos corps allongés sur la plage. Et quand je tourne les pages, j'aperçois le soleil qui tape sur ton visage et crie à mes oreilles de m'approcher tant qu'il est temps. Alors avec mes airs un peu trop sûrs qu'il s'en est faux, je te prends dans mes bras et toi tu dis très peu de mots. Assez quand même pour me souffler combien tout ça est beau. Ce soir j'en veux encore et joue au moins trois. Avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et joue au moins trois avant l'amour fou. Ça y est, je te viens battre. Ce soir je m'abandonne. J'entends le ciel qui parle mariage. Je tourne, tourne les images dans ma tête. J'en ai des idées folles. Je vois sur le rivage ta fille qui est la mienne et compte pour nous deux les bateaux. Alors avec mes airs un peu trop sûrs que ça ne faut, je te prends dans mes bras et toi tu dis très peu de mots. Assez quand même pour me souffler combien tout ça est beau. Ce soir j'en veux encore et joue au moins trois. Avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et joue au moins trois avant l'amour fou. Ça y est, je te viens battre.
Sur un ciel bleu, rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent, moi.
Et jour au moins trois avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et
Pierre Demar sur RFI avec Jour moins 3 et c'est dans 3 jours samedi qu'il sera ici à Paris en concert pour le Festival de la Francophonie à la Gaîté Lyrique où nous sommes aussi en direct et en public. Alors ce soir je m'émerveille, dit Pierre Demar. Est-ce pour cela Valérie Singer que vous l'avez choisi? Est-ce que la francophonie ça peut émerveiller?
Ah oui, mais je crois que tous les artistes, les auteurs... Les intervenants de ce festival sont là pour en témoigner. En effet, la langue française, c'est un matériau pour la création, c'est un levier pour l'innovation, l'imagination. C'est aussi, on veut en parler aussi au travers de ce festival, une manière d'agir sur le monde, d'où l'intitulé du festival.
Refaire le monde.
Oui, refaire le monde. Le français, c'est la langue de Molière, selon la formule convenue, qui n'est pas tout à fait exacte. C'est aussi un moyen très contemporain d'être citoyen du monde, de se former quand on est jeune, de voyager, de trouver un emploi, de faire des affaires. Et donc, c'est aussi une des thématiques du festival qui, au-delà de la Gaîté Lyrique, de la Cité internationale de langue française aussi, qui aura une programmation très riche, il y a aussi Francotech, qui est un événement, celui-ci qui est réservé aux chefs d'entreprise et qui se tiendra aussi dans le cadre du festival à Station F, les 3 et 4. Voilà, cette dimension utile, j'ose dire même utilitariste de la langue, je pense que c'est important aussi de la rappeler.
Mais refaire le monde, il faut quand même y croire, surtout en ce moment, surtout ces jours-ci.
Justement, je pense que ça fait du bien d'y croire ensemble.
Laetitia, est-ce que ça vous émerveille cette langue, la francophonie?
Moi, ce qui m'émerveille, c'est le fait qu'avec un sketch en français, je puisse toucher des gens du monde entier. Je reçois des messages du Burkina Faso, comme je peux en recevoir de Kinshasa, du Canada, même d'Italie, des personnes qui ont envie d'apprendre cette langue. Avec cette langue, je touche un monde incroyable, des personnes que je ne pensais peut-être pas rencontrer. Donc, elle fédère.
Dominique Moulon, vous, le critique, le commissaire d'exposition, comment est perçu ce thème de la francophonie chez les artistes que vous présentez, par exemple ici, sachant qu'ils viennent, donc, on l'a dit, du Zimbabwe, de Serbie, du Sénégal. Bon, alors, vous ne présentez pas des œuvres au sens d'une œuvre globale d'un artiste, ce sont des pièces de chacun des artistes, mais qu'est-ce qu'ils vous disent sur la francophonie ?
En fait, il y a une pièce par artiste et il y en a 32. Je dirais que les artistes sont évidemment intéressés par cette francophonie, sachant que moi-même, je me suis posé la question de ce que c'était. Au début, j'avoue, je ne savais pas. Je voyais quelques pays où je savais qu'on parlait français. Je sais que c'est beaucoup plus large. Je pense qu'il y en a même d'ailleurs parmi les artistes qui se sont penchés sur la francophonie à profit de cette exposition. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi le but. Moi, j'ai découvert, en fait, tous les sujets où j'ai une petite expertise, j'y suis rentré par l'art. J'ai une infime expertise aujourd'hui sur la francophonie, à cette différence sur les pays membres, observateurs, etc. Je ne savais pas, par exemple, que la Corée était un pays observateur. On a une artiste coréenne, Young Hae, Chung Heavy Industry. Et je dirais que plus que peut-être... Je ne devrais pas dire ça ici, mais plus que la francophonie, c'est l'intérêt à la langue qu'ont les artistes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au langage pour développer des imaginaires. La langue française, elle est omniprésente dans toutes ses œuvres, mais elle est aussi associée aux ondes radio, à la transmission par le morse, comme je le disais tout à l'heure, au langue braille. En fait, ce sont des artistes qui s'intéressent à la francophonie, précisément à la langue et au langage pluriel.
Alors, je vais être un peu taquin, mais l'une des premières œuvres du parcours est celle d'un artiste belge qui s'appelle Mathieu Zurchtrassen, qui est un livre dont le titre est « Éloge de rien, dédié à personne, précédé d'une introduction superflue ». C'est un pied de nez ?
Oui, c'est un pied de nez. C'est un pied de nez que fait l'artiste. Et j'adore. Et en fait, il me l'a vendu comme l'œuvre entre guillemets, parce que le Belge peut faire de l'humour sur la Belgique, comme l'œuvre la plus belge qui soit, c'est-à-dire cet éloge de rien où d'ailleurs on n'entend presque rien. Et ce à quoi j'ai répondu, j'aime ces œuvres d'un presque rien. C'est l'art conceptuel. C'est l'art où finalement il n'y a qu'une petite idée, mais qui en même temps est majestueuse et qui donne le sens. Et en effet, finalement, on va la voir par le livre qu'on ne peut pas lire, le texte qu'on ne peut quasiment pas entendre et une belle lumière sur ce micro comme on le fait au théâtre.
Alors, on parlait d'œuvres numériques. C'est vrai qu'il y a des projections, il y a des hologrammes, il y a des œuvres qui ont été conçues par le numérique et qui donnent des images qui sont dans l'exposition. Mais il y a aussi des sculptures au sens physique du terme. Il y a par exemple un clavier d'ordinateur dont les touches sont des pavés en grès sur lesquels sont inscrits les fameuses lettres du clavier.
C'est Philippe Villas-Boas qui est né à Lisbonne et qui vit à Paris. Et en effet, ce clavier qui est fait de pavés nous dit la révolte. Nous dit la révolte depuis qu'il y a des pavés à Paris et pas que. Mais nous dit la révolte quand on enferme un clavier, qui signifie aussi avec les médias sociaux, si tant est que les pays ne ferment pas ces médias sociaux. Et Dieu sait s'il y en a encore. Donc, moi, ça m'a semblé intéressant, non pas de dire avant il y avait les pavés, aujourd'hui il y a le clavier. Je pense à Twitter devenu X, mais de dire souvent ils sont associés. Et on l'a vu dans les dernières révoltes, ici, ailleurs et autrement, on associe ces deux actions.
Il y a quelque chose de commun entre tous ces artistes. La langue crée un imaginaire.
Je dirais que la langue crée un imaginaire. On peut même considérer la langue et les langages. Et l'histoire de l'art, la peinture, c'est un langage finalement, à bien y regarder. Je dirais que c'est aussi là un petit peu le travail du commissaire que de créer non pas un parcours dans l'espace, ce qui existe, mais c'est de faire, d'établir de la relation d'œuvre en œuvre. Et en fait, parfois même on est surpris en commissariat de mettre deux œuvres ensemble pour des questions purement de lumière ou de son. Et tout à coup, on se dit, elles dialoguent, elles n'ont même pas besoin de moi. Et d'ailleurs, c'est quand on n'a plus besoin du commissaire et même des artistes que les œuvres gagnent leur autonomie demain matin quand il y a juste le public.
Et c'est vrai que c'est une belle déambulation dans le sous-sol de la gaieté lyrique où l'on est attiré par une sculpture, une projection, une photo et on se dit oui, il se passe quelque chose. Laetitia Mampaka, des mots, vous faites votre miel. Vous êtes l'oratrice belge la plus visionnée en Belgique et en arrivant dans ce studio, vous avez commencé à faire un petit film. Je sens que vous allez être sur les réseaux sociaux très vite. Comment est apparu ce talent, ce désir de travailler avec les mots? Pourquoi vous n'auriez pas été, je sais pas, médecin, informaticienne? Ne me faites pas des gros yeux comme ça.
Non, j'ai fait ces gros yeux parce que mon frère est médecin. Voilà. Donc, c'est tout simplement parti d'un défaut, le bavardage. Le fait qu'à l'école, on nous apprend à écouter, mais pas toujours à parler. Et manifestement, j'avais énormément de choses à dire, mais je ne savais pas comment le dire.
Mais je ne suis pas devenu humoriste, moi.
Non? Vous non. Auriez pu m'écouter, mais attendez, j'étais carrément parfois payée, hein, ma mère négociait pour que je ne parle pas de l'après-midi.
Non.
Si, j'ai un journal de classe où le professeur a écrit « j'abandonne », donc c'est parce qu'elle ne savait plus où me mettre. Et finalement, je me suis rendu compte qu'entre aimer parler et savoir parler, il y avait tout un monde qu'on appelle l'éloquence. Donc ça a été tout simplement l'envie de faire d'un défaut une force. Et j'ai découvert en fait que c'était tout un univers. L'éloquence est un art et je trouve que la langue française est un des plus beaux instruments.
Donc vous avez fait d'abord des concours d'éloquence avant de vous découvrir cette vis comica, comme l'on dit.
Mais je faisais rire sans le faire exprès et c'était assez vexant au début parce que je racontais mes histoires de vie. Et quand on a envie de se confier et que les gens rigolent, bon, faut savoir le supporter. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire une carrière? C'est vraiment quelque chose de beau de pouvoir bien unir des personnes qui ne se rencontraient peut-être pas autour d'un humour, d'une blague. C'est vraiment beau.
Et vous avez fait des études de droit?
Je suis juriste, oui. Je sais ce que vous vous dites. Les étudiants en droit, souvent, ils sont catalogués grosses têtes, super orgueilleux, qui se la pètent. Moi, ça va. Ce ne sont là que des études. C'est pas comme si un jour on allait m'appeler maître. Non, c'est pas compliqué. Ceux qui hésitent encore à faire des études, faites des études de droit. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir mon diplôme. Rentrer à la maison, regarder mon père droit dans les yeux et lui dire à partir d'aujourd'hui, c'est maître. La classe, la classe. Même dans le métro, ça fonctionne. Vous savez, les dragues super reloues du style « c'est mademoiselle ou c'est madame ?» Frère, c'est maître.
Extrait d'un de vos spectacles, Laetitia Mampaka, mais du coup, je suis très embarrassée. Comment je vous appelle?
Maître ou la reine, ça va.
Ah.
C'est un des deux,
ah oui,
je suis assez simple. Oui.
Bon. Alors, Majesté, comment J'en suis très perturbé, vous voyez.
Mais oui,
ah oui, parce que
je
j'avais pas du tout prévu de m'incliner, de faire des révérences, bah, etc.
Attendez, je viens d'une monarchie parlementaire quand même. Hein.
Bah oui, donc ah, bah, on peut rester droit, c'est
voilà.
Ça. Bon. Non, mais comment vous travaillez? Est-ce que c'est à l'intuition? Comment vous trouvez les jeux de mots? Parce que l'humour, et notamment l'humour en français, c'est un travail sur la langue et sur les jeux de la langue.
Bien, moi je viens de 8 ans de formation quand même. Donc j'ai eu le temps d'écouter. Ma mère dit toujours, on a deux oreilles et une bouche. Donc en s'entourant de personnes intéressantes, en écoutant les autres, c'est là où les inspirations viennent le plus. Je n'invente pas le monde, je le refais au travers des discussions, des échanges que j'ai. Et plus on écoute les autres, plus les inspirations arrivent. Ma mère en a un petit peu marre parce que sur 1h15 de spectacle, je pense, je parle d'elle pendant 45 minutes.
Aïe.
Voilà.
Mais vous dites du bien ou du mal?
Tout est une question de perception. Et pour moi, l'inspiration, c'est les mots sont importants, mais il ne faut jamais oublier l'esprit dans les mots. Selon un mot qu'on nous dira, on peut avoir des compréhensions différentes. Moi, je m'attache beaucoup à la définition du mot, non pas tel que je le comprends, mais tel que le dictionnaire, tout simplement, le définit. Ça, on l'oublie souvent. On entend, mais on n'écoute pas toujours. Donc, j'essaye d'écouter, d'entendre, de comprendre, d'interpréter. C'est beaucoup de travail. Hein.
Votre spectacle s'appelle « Il était une joie ».
Oui.
C'est magnifique.
Mais oui, mais je vous le dis, c'est un secret. En fait, c'est parce que Laetitia veut dire la joie en latin. Donc, c'est tout simplement un spectacle où je me présente. Voilà, c'est déjà un petit jeu de mots avec cette phrase qu'on connaît, « Il était une fois ». Parce que ouais, je crois que chaque histoire est un conte, parfois parodique, mais qui vaut la peine d'être écouté.
Vous êtes donc juriste et latiniste.
Oui, oui. J'ai fait 6 ans de latin quand même hein, pour les études de droit. Bon. Le diplôme est là, c'est ce qui compte.
Laetitia, Madame la Reine, je ne connais pas les expressions belges, mais sur RFI, avec Lucie Bouteloup, toutes les semaines, on fait la part belle aux expressions populaires qui circulent en France. Ça s'appelle la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
D'habitude
bonjour à
vous
tous.
Êtes un peu franco-française, mais francophonie oblige, la puce a franchi les frontières, elle est québécoise aujourd'hui.
Et oui, et j'ai envie de profiter du mois du Québec pour vous dire, Pascal, attache ta tuque avec de la broche.
Pardon ?
Oui, vous m'avez bien entendu. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? J'ai envie de poser la question à vos invités. La tuque, ça vous parle ?
Non.
Ah là, la reine ne dit plus rien. Hein.
Alors, vous n'êtes pas les seuls à rester circonspects. J'ai donc demandé à Gabriel Martin un petit éclairage en direct depuis le Québec. Je l'ai joint au téléphone, il est linguiste et il collabore régulièrement avec les éditions du Robert. Mais avant, comme d'habitude, Pascal, on entend...
Les enfants.
Attache ta tuque, ça me fait penser à attacher son courage. Et avec une broche, c'est comme prendre son courage avec ses mains.
Attache ta tuque, c'est comme si tu disais un peu attache ta ceinture. Du coup, une broche, c'est ce qui permet d'attacher quelque chose. Du coup, pour moi, attache ta tuque avec ta broche, c'est dire attention, ça va décoller.
Alors moi, à première vue, c'est vrai que le mot tuque, bah, ça me fait penser à toque, comme les chefs cuisiniers. Et on pourrait penser que c'est comme une toque qu'on attache avec une broche.
Pourquoi tuque? Parce que tuque veut dire semblant et broche, c'est un élastique pour s'attacher les cheveux.
La puce à l'oreille.
Bonjour Gabriel Martin.
Bonjour Lucie.
Alors, attache ta tuque avec de la broche, évidemment, pour les enfants, hein, ça reste un mystère. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, Gabriel? On va d'abord commencer par cette tuque. Qu'est-ce que c'est que cette tuque?
C'est ce qu'on appelle couramment bonnet en France. Donc, c'est le vêtement souple qui se porte sur la tête. Donc, attacher sa tuque, c'est mettre d'une façon très concrète. Là. Ça serait attacher son bonnet sur sa tête. Mais attacher sa tuque, on l'utilise d'une manière figurée pour dire se préparer à une situation extrême par son intensité, son caractère mouvementé ou sa difficulté. Disons, avant un examen, quelqu'un à l'école pourrait dire « attachez vos tuques, l'examen va être difficile ».
Ça serait « accrochez-vous », en fait, hein? C'est ça?
C'est « accrochez-vous » exactement, ou un peu comme « boucler votre ceinture » en quelque sorte. Mmh. On va dire « attache ta tuque », la façon courte, mais quand on dit « attache ta tuque avec la broche », c'est encore plus intense.
Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette broche?
Oui, la broche, c'est un fil de fer, vraiment un fil métallique qui pourrait servir de clôture.
Le fil barbelé.
Le fil barbelé, exactement.
Mon Dieu, bon, bah, on est sacrément bien accroché. Bon, maintenant qu'on est bien accroché, Gabriel, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous êtes du genre à pelleter les nuages?
Ah, parfois un peu. Hein. Lorsqu'on est intellectuel, on a tendance à pelleter des nuages.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pelleter des nuages? L'image, elle est assez jolie.
Oui, l'image est jolie, mais essentiellement, ça signifie poursuivre des chimères. Donc, on va dire une personne qui pète les nuages, c'est une personne qui va concevoir des idées, des projets utopiques, souvent déconnectés de la réalité. Donc, c'est très joli, l'expression, mais elle est légèrement péjorative. Puis, vous voyez, on parle, je dis, de pelleteux de nuages, mais on peut aussi parler de pelleteur de nuages. Les deux formes existent pour désigner la personne là, qui pèlte les nuages. Puis l'action elle-même, c'est le pelletage de nuages. Donc, on a toute la famille morphologique. Là.
Bon, alors, vous êtes linguiste. Ça veut dire que vous aimez les mots. Oui. Et peut-être parfois oui. Au point de vous enfarger dans les fleurs du tapis.
Oui, s'enfarger dans les fleurs du tapis. On a vraiment ici une expression québécoise classique qui s'utilise depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, s'enfarger dans les fleurs du tapis, se prendre les pieds dans le tapis, mais dans un sens figuré bien précis. Selon le dictionnaire québécois Usito, s'enfarger dans les fleurs du tapis, c'est se laisser arrêter par des détails ou des obstacles fictifs.
Donc, c'est se créer des problèmes là où il n'y en a pas, en fait.
Oui, donc c'est attacher une importance exagérée aux détails. On pourrait dire, grosso modo, que c'est un équivalent d'ergoter, de tatillonner, de pinailler.
Bon, Gabriel, ce que je viens de vous poser comme question, c'est pas très agréable. Hein. Alors, évidemment, tout de suite, vous avez envie de me rétorquer.
Ah, je pourrais vous dire de gérer votre fougère. Je ne sais pas si ça serait très, très poli, mais...
gérer ma fougère, c'est-à-dire?
C'est se mêler de ses oignons, tout simplement. Ah. C'est une façon très récente et assez amusante qu'on va utiliser notamment en s'adressant à des enfants. Et l'expression demeurait jusqu'à récemment assez cantonnée aux écoles, aux cercles où il y a des enfants. Donc, tous les parents du Québec, là, dont les jeunes enfants connaissaient l'expression. Mais en avril dernier, la vice-première ministre du Québec a utilisé publiquement l'expression en disant « chacun doit gérer sa fougère » dans un contexte relativement formel. Alors, ça a provoqué une hilarité dans la population. Les gens trouvaient ça très drôle, mais ça a contribué à diffuser l'expression plus largement.
Merci, Gabriel Martin. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur le français québécois. Vous avez de quoi vous péter les bretelles, si je puis me permettre.
Ah, bien, c'est bien gentil. Oui, c'est un peu être très fier, parfois un peu se vanter quand on va se péter les bretelles.
Est-ce que vous trouvez que je beurre épais en disant que vous avez de quoi vous péter les bretelles?
Oui, c'est un peu exagéré en quelque sorte.
Merci beaucoup en tout cas, Gabriel Martin, pour cette puce en français québécois et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver une très prochaine fois.
J'espère aussi, ça a été un vrai plaisir, Lucie.
Merci à tous les deux. Laetitia Mampacas, que vous avez bien attaché votre tuque pour ce soir, pour le spectacle.
Oh oui, bien sûr, avec la broche.
Ils sont forts quand même les Québécois, non?
Ah, ils sont vraiment forts, j'ai beaucoup aimé les expressions là-bas. Je comprends pas toujours avec l'accent, mais il me manque, il est tellement beau.
Je me demande s'il faudrait pas faire des concours entre les différents pays et les différents humoristes.
On met un Québécois, un Belge et un Marseillais, ça vous va?
Ouais, un Congolais et un Sénégalais, voir qui a le plus d'humour. Valérie Sanger, est-ce que vous pétez les bretelles pour ce festival de la, de la francophonie?
Écoutez, je suis très heureuse que ce projet ait suscité autant d'intérêt, de mobilisation. Des artistes, voilà, de tous ceux qui sont là, des partenaires qui nous ont aidé à co-construire ce projet. Ce n'est pas évident.
Mais alors, ce festival, donc, c'est 5 jours pour le sommet de la francophonie. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un événement qui a vocation à se répéter?
L'avenir le dira. On verra si le prochain pays qui accueille le sommet de la francophonie dans 2 ans décide de rééditer, de s'approprier l'idée, de la faire évoluer. En tout cas, ça fait partie de l'héritage de ce sommet, puisque c'est une innovation.
Donc on se donne rendez-vous dans 2 ans, mais peut-être avant pour d'autres aventures. Merci à tous les trois. Le festival, c'est entrée libre, il faut le dire, pour tout, exposition, concert, débat, colloque, etc. Et c'est jusqu'à dimanche. Laetitia Mampacas, vous serez sur scène donc ce soir à la Gaîté Lyrique, en compagnie de quelques humoristes venus du monde entier. Et vous serez aussi le 25 octobre à Lille pour votre spectacle. Il était une joie. Devez-vous à Pascal Paradou avec Cécile Lavolo, réalisation Laura Pinto, Boris Vichit, Dominique Fian à la technique. Rendez-vous demain, toujours ici, à la Gaîté Lyrique, où le Festival de la Francophonie bat son plein.